Super, on vient de gagner un nouveau contrat. Va falloir s'équiper de nouveaux ordi.
Direction Dell.fr. Tiens, regarde, 50% sur l'achat d'un deuxième ordinateur pro.
Génial.
Et pendant le mois de juin, Dell.fr t'offre la livraison.
Top Dell.fr. Au fait, j'y pense, ma fille cherche un PC tactile.
L'XPS 12, PC et tablette.
Et pour mon père, il propose quoi ton Dell.fr?
Jusqu'à 100 euros de réduction sur une sélection de PC. T'en prendras aussi un portable mère?
Ou pas.
Voir modalité sur Dell.fr.
Franck Ferrand, sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
En 1313, comment le monde...
En 313,
pardon. Comment le monde est devenu chrétien? Et oui, c'est il y a bien plus longtemps, effectivement, 17 siècles en arrière. C'est le titre du grand dossier que propose le Figaro Histoire dans son 8e numéro. Une fresque haute en couleur avec pour personnage central l'empereur Constantin. Bonjour Franck.
Oui, bonjour Julia. Pardon de cette interruption.
Mais vous avez bien fait.
313, c'est vrai que ce sont des dates auxquelles nous ne sommes pas très habitués. Constantin, c'est inconnu, pour reprendre le titre d'un des articles de ce dossier. Beau dossier, richement illustré comme d'habitude, et qui ne se contente pas de survoler le sujet, mais prend le temps d'approfondir les grandes questions. C'est pour nous une occasion rêvée, en cette fin de printemps qui attend désespérément le soleil, d'évoquer un univers lumineux, le blanc du marbre, le bleu de la mer, la pourpre impériale et le vert intense des cyprès et l'or des mosaïques. Vous pouvez même ajouter quelques cigales en bruit de fond si ça vous chante.
Et vous avez invité deux des principaux contributeurs de ce dossier sur Constantin et les chrétiens.
En effet, Michel de Gégère est le directeur de la rédaction du Figaro Histoire, c'est toujours une joie de le recevoir. Quant à Pierre Maraval, auteur d'une récente et incontournable biographie de Constantin, il répond dans ce numéro à un certain nombre de questions. Des questions aussi diverses que celles-ci. Que représentaient les chrétiens en l'an 313? Pourquoi Constantin s'est-il converti? Eh oui. Ou encore, le christianisme a-t-il causé la chute de Rome? Ces questions et quelques autres, nous allons nous aussi nous les poser.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Chez les historiens, on appelle cela l'Antiquité tardive, c'est-à-dire cette période en demi-teinte des 3, 4 et 5e siècles, juste avant la chute de l'Empire romain d'Occident. Une époque passionnante et foisonnante, mais complexe, qui ressemble beaucoup à la nôtre par certains aspects, et qui aura vu l'immense Empire romain, maître de tout le pourtour méditerranéen et de l'Europe occidentale, qui aura vu cet empire lutter sur tous les fronts et inventer des solutions pour survivre. Survivre d'abord à ses propres défauts, à ses propres vices, mais aussi contrer la pression des barbares un peu partout aux frontières, et puis gérer le problème majeur du christianisme qui, de l'intérieur, devait miner ses fondements moraux. Le grand Constantin, réformateur majeur, fondateur de cités, dont Constantinople évidemment. Constantin est le premier empereur romain à s'être converti à cette religion nouvelle, ce qui explique sa popularité chez les auteurs chrétiens depuis le Moyen-Âge. L'Église byzantine a même fait de lui un saint. Ce qui ne doit pas cacher toutes les autres facettes du personnage et de son règne et de son temps. Constantin, c'est sûr, fait partie de ces grands hommes qui, dans l'histoire, ont laissé à leur mort un État unifié, pacifié, globalement prospère, mais naturellement, derrière ce bilan grandiose, se cachent toutes sortes de réalités. Nous allons y venir. Alors que dire des origines de notre Constantin Ier? Eh bien, il est né dans l'actuelle Serbie. À l'époque, on appelait sa région natale la Mésie. Il est le fils du chef de guerre Constance, dit Constance Chlore, parce qu'il avait le teint jaune. En grec, chloros, ça veut dire jaune verdâtre. Donc, il est le fils de ce Constance Chlore, un préfet du prétoire devenu César, en charge de la Gaule et de la Bretagne, alors que son fils a déjà 18 ans. Donc, un père César. Mais la mère, elle, n'est pas l'épouse légitime de Constance, qui, au moment de la naissance de Constantin, n'était pas encore mariée. La mère de Constantin, c'est une ancienne tenancière d'auberge, concubine de Constance Chlore, et qui va laisser un nom dans l'histoire, cette Hélène, vous savez, la sainte Hélène des chrétiens. L'épisode le plus célèbre de la vie de Constantin, c'est en 312 la bataille du pont Milvius, gagnée sur un grand rival de Constantin, sur son grand rival de l'époque, Maxence. La veille, l'empereur est censé avoir eu une apparition. Il aurait vu dans le ciel d'Italie une grande croix très lumineuse, interprétée comme le ralliement à sa cause du dieu des chrétiens. C'est en tout cas l'origine qu'on nous donne, l'origine que tous les chroniqueurs ont donnée de sa conversion. Nous allons revenir forcément sur tout cela. Mais auparavant, j'aimerais attirer un moment votre attention sur la situation de l'Empire romain avant que Constantin n'intervienne et ne le réunifie. On en parle très rarement et pour une raison évidente, c'est que la situation de Rome avant Constantin est vraiment complexe, disons que c'est un sac de nœuds. Pourtant, le dossier du Figaro Histoire a osé s'attaquer au sujet et moi ça me donne le courage d'essayer d'en faire autant cet après-midi. Alors, avant Constantin, l'Empire est dirigé par une tétrarchie, c'est-à-dire quatre empereurs. Vous avez deux Augustes qui ont la primauté et deux Césars qui sont en quelque sorte les lieutenants de ces Augustes, les lieutenants au sens propre du terme. Le fondateur de cette tétrarchie, c'est un homme de grande envergure, c'est Dioclétien. J'ai vraiment pris conscience en ce qui me concerne de l'importance exceptionnelle de cette grande figure l'année dernière au cours d'un séjour touristique à Split, je vais tout vous raconter, parce que à Split, sur la côte dalmate, dans l'actuelle Croatie, se trouve le gigantesque, le fascinant palais romain où le grand homme a passé les dernières années de sa vie. Et quand on découvre cette cité et ce palais, on se dit, mais qui était ce bonhomme? Pour mieux contrôler un empire romain qui, à l'époque, est attaqué de toutes parts et sur toutes ses frontières, Dioclétien avait commencé par établir une diarchie, deux pouvoirs, si vous voulez. Il confie l'Occident de l'Empire à un certain Maximien et il se garde pour lui l'Orient. Tous deux vont bientôt porter le titre d'Auguste. Et puis, toujours dans le même esprit, en 293, Dioclétien adjoint deux Césars à ces deux Augustes. Lui-même sera secondé par son gendre, Galère. Quant à Maximien, là-bas, en Occident, il se voit attacher son ancien préfet du nom de Constance Chlore, comme on se retrouve. Vous voyez donc, le père de Constantin était un des quatre maîtres de l'Empire romain, un des quatre piliers de la tétrarchie. Constance Chlore est en charge de son quart d'empire, en l'occurrence la Bretagne, l'actuelle Grande-Bretagne, et la Gaule. Le règne de Dioclétien, disons-le, est assez exemplaire, avec de grandes réformes militaires, administratives, fiscales. Bon, tout ça n'est pas notre sujet aujourd'hui. On peut dire aussi qu'est exemplaire son retrait volontaire du pouvoir. Ça fait du bien, par les temps qui courent, de voir quelqu'un qui, après avoir accompli son devoir, va se retirer tout en douceur en 305. À l'époque, Constantin a déjà 30 ans. Or, il est écarté de cette succession. Oh, pas pour longtemps, c'est ce que nous allons voir maintenant. Un mot avant cela sur les persécutions de chrétiens ordonnées par le grand Dioclétien. Elles vont rendre, vous le comprenez bien, par contraste, elles vont rendre d'autant plus marquantes les ouvertures voulues par Constantin.
Balf sur Europe 1 avec Sailing to Constantinople, Constantin et les chrétiens. On en parle dans un court instant sur Europe 1.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Et avec nous aujourd'hui sur Europe 1, Pierre Maraval, professeur émérite à l'université Paris 4 Sorbonne, auteur notamment de Constantin le Grand chez Talendier, et puis Michel de Gégère, qui est directeur de la rédaction du Figaro Magazine.
Bonjour à tous les deux, merci d'essayer d'éclairer notre lanterne sur une période qui, nous l'avons vu, n'est pas simple. Et nous allons évidemment nous concentrer sur ce 1700e anniversaire, hein, sur cet édit de Milan. La lettre signée en 313 par Constantin et Licinius à 1700 ans, écrivez-vous Michel de Gégère dans votre éditorial. Elle reste décisive parce qu'elle constitue la première tentative de concilier l'unité morale, affective, intellectuelle, sans laquelle l'unité politique est une coquille vide, un pseudo-contrat conclu entre enfants trouvés destinés à mourir célibataires, écrivez-vous, avec la liberté propre à l'acte de foi. Ça a été un événement majeur dans notre histoire occidentale que cette reconnaissance par l'Empire romain de la religion chrétienne, évidemment.
Alors c'est une reconnaissance de la religion chrétienne, mais c'est surtout, je dirais, une reconnaissance de la liberté de religion. Oui. Parce qu'en réalité, il faut comprendre que dans l'Antiquité, politique et religion sont étroitement liées, puisque la religion est presque une dimension de la politique. Le but de la religion, c'est d'assurer la paix avec les dieux, c'est d'assurer la prospérité de la cité. La religion a un but politique qui est que les dieux, qui sont des puissances invisibles et souvent redoutables, eh bien, soient favorables à la cité, assurent la victoire de ses armes, l'épargne des catastrophes naturelles. Et donc, la religion est un devoir civique. La religion est un acte politique, elle vise à la préservation de la cité. Évidemment, c'est une conception qui est incompatible avec le christianisme, puisque ce que ne comprennent pas les anciens, c'est l'idée que les chrétiens, sous prétexte qu'ils ont un Dieu unique, refusent de participer aux cérémonies du culte.
Oui.
Cérémonies qui sont justement censées assurer cette sécurité de la cité.
Et ces Romains dits païens, ils se demandent si leur Dieu à eux ne vont pas se venger, évidemment, si on arrête de pratiquer un certain nombre de rites et de les célébrer et de les honorer.
Ils en sont convaincus. C'est la raison pour laquelle, au cours des premiers siècles, avant les persécutions générales de Dioclétien, et puis un petit peu celles de Dèce et Valérien avant, mais auparavant, au cours du IIe siècle notamment, les persécutions sont sporadiques et elles suivent les malheurs publics. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une épidémie, lorsqu'il y a une défaite...
On fait une sorte de pogrom, si l'on peut dire.
Exactement.
C'est ça, mais contre les chrétiens. Ce qui est très étonnant, c'est que ce personnage qui m'a beaucoup fasciné, je le disais l'année dernière, cet empereur Dioclétien, qui a été tellement sage, tellement avisé dans la gestion de cet immense empire en déliquescence et constamment et menacé par les barbares, cet empereur va avoir envers les chrétiens une attitude très dure, Pierre Maraval.
Bien sûr, mais c'est tout à fait logique parce qu'au fond, les chrétiens sont de mauvais citoyens. Ils n'aident pas, ils n'assurent pas l'unité de l'empire, ils ne contribuent pas au bonheur public. Et donc, il faut absolument les contraindre. Le but, ce n'était pas de les châtier. Le but, c'était de les contraindre à vénérer les dieux. Donc, c'est pour ça qu'on exigeait un sacrifice de leur part. Donc, c'est ainsi qu'ils participeront à l'œuvre commune de défense de l'Empire.
Alors, nous avons vu qu'au moment du retrait de Dioclétien en 305, le jeune Constantin n'avait pas sa place parmi les gouvernants. Nous allons voir que cette place, il va bientôt se la faire.
Franck Ferrand sur Europe 1.
Un extrait sur Europe 1 de la bande originale du film Jules César, réalisé par Mankiewicz et avec Marlon Brando.
C'est le côté péplum de cette émission, si vous voulez. C'est notre clin d'œil. Alors, Constantin, lorsque se retire Dioclétien, ne fait pas partie. Il est pourtant le fils d'un des tétrarques. Hein. Il est le fils de ce Constance Chlore, qui a gouverné la Gaule et la Bretagne, c'est-à-dire l'actuelle Grande-Bretagne. Et puis non, en fait, il n'a pas de pouvoir pour lui.
Oui, mais ça répond à la volonté de Dioclétien de ne pas créer des successions dynastiques. L'Empire romain avait toujours du mal à assurer la succession des empereurs. Et parfois, quand on avait pris le fils, ça n'avait pas été une réussite. Donc, Dioclétien considère qu'on doit choisir au mérite.
C'est ça, il n'y a pas de filiation.
Donc, pas de filiation directe. Donc, Constantin n'est pas retenu.
Mais c'est un personnage qui a un tempérament, on peut dire d'emblée une trempe politique.
Oui, ben il résidait à Nicomédie, c'est-à-dire là où résidait Dioclétien, et il était certainement considéré comme un jeune homme ambitieux, etc. Donc,
il va accompagner son père dans une expédition contre les Pictes, enfin les Écossais, dire. Hein.
Ben, c'est-à-dire qu'il va quitter, après cette nomination des successeurs, il quitte immédiatement, il quitte même en toute hâte, Nicomédie, pour rejoindre son père. Là, il se trouve qu'il va assister son père dans la lutte contre les barbares du nord de la Bretagne. Et il fait preuve de ses talents militaires. Et puis là-dessus, son père meurt. Son père meurt pendant une campagne à York. Là, quelque chose de normal se produit. L'armée va le proclamer empereur. Alors évidemment, c'est tout à fait irrégulier. Il faut le souligner. C'est tout à fait irrégulier. Donc il est obligé de s'adresser à Galère, qui est devenu le premier Auguste, pour lui soumettre sa nomination. D'autant plus que les soldats l'ont proclamé Auguste.
Et non pas César. Hein, ils lui ont d'emblée donné le titre maximum.
Voilà. Et alors, donc, Galère, de très mauvaise humeur, l'accepte, mais comme César. Constantin tranquillement s'en accommode pendant quelques années.
Avant de s'autoproclamer lui-même Auguste, oui, ça va venir un peu plus tard. Personnalité assez forte, c'est le moins qu'on puisse dire, oui. Michel de Gégère.
Je crois que c'est quelqu'un de très énergique, déjà de très physique. On sait qu'on l'appelle Coup de Taureau, c'était son surnom. Mmh. On sait aussi qu'on lui a fait affronter des bêtes féroces à l'exercice. Et on va savoir que c'est un soldat très vaillant. Et notamment lors de cet épisode avec son père, il va acquérir une légitimité militaire en assistant son père en Bretagne. Or, il faut toujours se souvenir que l'Empire romain, c'est tout de même un régime militaire. L'empereur, c'est un général en chef.
C'est un général.
Et donc, il montre ses qualités de général en chef aux côtés de son père. Ensuite, c'est vrai que Dioclétien donc, avait voulu instituer une succession au mérite, mais c'est vrai aussi que dans toute l'histoire de l'Empire romain, l'idée de la succession au mérite et l'idée de l'hérédité se sont combattues.
Oui, c'est constamment.
La grande époque de la succession au mérite, qui est le deuxième siècle, avec les Antonins, Trajan, Adrien, Marc Aurèle, eh bien maintenant on s'est aperçu que tous ces gens-là étaient parents, avaient des liens de parenté assez étroits, et que la succession au mérite eh bien, coexistait avec une certaine forme d'hérédité. Donc l'erreur probablement de Dioclétien, qui va susciter la crise de la tétrarchie, c'est d'avoir négligé le fait que, eh bien, parmi les Césars et les Augustes, eh bien, deux d'entre eux avaient un fils, Maximien qui avait comme fils Maxence et Constance Chlore qui avait comme fils Constantin. Et ces deux fils ayant été écartés du pouvoir,
il fallait bien leur trouver une place.
Eh bien, vont se trouver une place.
Et alors Constantin, il ne faut pas l'oublier, le père de Constantin, Constance, donc le fameux Constance Chlore, dont on dit qu'il avait le teint jaune, était chrétien en fait, c'est ça alors ?
Non, on ne peut pas dire ça. Il était probablement... disons monothéisant, c'est-à-dire il était sans doute un des adorateurs d'un dieu unique qui était peut-être représenté par le soleil à toute la...
Qu'est-ce qui va amener Constantin au christianisme alors ?
C'est difficile de le dire de manière précise parce que au fond on n'a pas d'indice avant cette fameuse bataille de son rapprochement avec le christianisme. Simplement, il y a un fait, c'est que Constantin a été convaincu que c'était le dieu chrétien qui lui avait donné la victoire.
La victoire de la bataille du pont Milvius. Alors on va y venir.
Ce qui est un réflexe profondément païen.
Bien sûr. Il fonctionne exactement comme les païens. Hein.
Ça fait penser à la conversion beaucoup plus tard, hein, bien sûr, mais à la conversion de Clovis. Hein. On a un peu cette idée-là. C'est-à-dire, tu me donnes la victoire, alors...
C'est la théologie de la victoire. Donc Dieu vous a donné la victoire, donc vous allez lui rendre ce qu'il vous a donné.
En fait, il est probable que Clovis se soit lui-même inspiré de Constantin comme modèle.
Oui. Et que surtout les chroniqueurs qui racontent l'histoire de Clovis et recopient un petit peu ce que les chroniqueurs racontant celle de Constantin avaient cru bon de raconter. Alors, on va y venir justement à ces chroniqueurs, à cette conversion et à cette victoire à travers les écrits que vous citez très abondamment, Pierre Maraval évidemment, à travers les écrits notamment d'Eusèbe de Césarée.
Le récit de Franck Ferrand.
Un récit de Franck qui nous raconte maintenant sur Europe 1 la conversion de Constantin.
Eh oui, il faut vous dire que Pierre Maraval a beaucoup écrit sur Constantin, qu'il connaît évidemment ce sujet mieux que quiconque, et notamment une biographie magistrale parue chez Talendier qui s'appelle tout simplement Constantin le Grand. Il est également aux Belles Lettres, vous savez, tous les amoureux de l'histoire ancienne connaissent bien cette maison illustrissime. Il a présenté un certain nombre de textes dans la collection La Véritable Histoire. Alors, c'est un paradoxe, c'est ce que nous disions juste avant d'entrer. Le titre de cette collection est un paradoxe, puisque le but est de présenter des textes anciens dont on ne peut pas être tout à fait assuré qu'ils racontent la vérité. Mais enfin bon, c'est le titre de la collection La Véritable Histoire, donc en l'occurrence La Véritable Histoire de Constantin, et puis Constantin, Lettres et Discours, également édité aux Belles Lettres. Alors, c'est dans cette véritable histoire que je suis allé puiser en marchant littéralement sur les brisées de Pierre Maraval. Je suis allé chercher un certain nombre d'extraits de ce que peut dire Eusèbe de Césarée. Alors, Eusèbe de Césarée, c'est un théologien chrétien, c'est un évêque, il ne faut pas l'oublier. Et en même temps, c'est le chroniqueur, c'est l'historien du règne, c'est celui qui va nous fournir le plus grand nombre d'éléments pour appréhender cette vie de Constantin, en dehors des panégyriques. J'y viendrai tout à l'heure. Et ce n'est que dans sa vie de Constantin, nous dit Pierre Maraval, écrite peu après la mort de l'empereur, qu'il va développer son récit. D'autres textes viendront après lui qui en reprendront certains éléments et en ajouteront de nouveaux. Mais c'est dans le sien qu'il faut chercher le point de départ de la légende. De quelle légende ? Eh bien, précisément de celle de la conversion de Constantin. Alors, il faut se remettre dans le contexte. Hein, ce nouveau César est en vue de Rome, juste avant d'engager le combat. Il va faire appel au Dieu des chrétiens. Et je cite Eusèbe de Césarée. Sachant bien qu'il aurait besoin d'une aide plus puissante que celle que peut apporter une armée, il chercha un dieu qui l'aiderait. Il considérait que l'apport des soldats et d'une nombreuse armée était secondaire, car il pensait que sans l'aide d'un dieu, ceux-ci ne pouvaient rien, et il disait que ce qui vient de l'assistance d'un dieu est irrésistible et invincible. Il se demandait donc quelle sorte de dieu il devait adopter. En réfléchissant à cela, l'idée lui vint que, parmi beaucoup de ceux qui dans le passé avaient aspiré au gouvernement, la plupart de ceux qui avaient attaché leurs espérances personnelles à de nombreux dieux, en les honorant par des libations, des sacrifices et des offrandes, avaient d'abord été trompés par les prédictions et les oracles favorables qui leur promettaient des succès, mais avaient eu une fin misérable. Aucun dieu ne les avait assistés pour les protéger des désastres voulus par la divinité. Seul son propre père avait pris un chemin opposé à ceux dont il condamnait l'erreur, en honorant le Dieu qui est au-dessus de tout, il avait trouvé en lui un sauveur, le gardien de son règne et le dispensateur de tout bien. En réfléchissant en lui-même à tout cela, il en concluait que ceux qui s'étaient confiés à la multitude des dieux étaient tombés dans de multiples calamités au point de ne laisser ni descendance, ni racine, ni nom, ni mémoire chez les hommes. Pendant que le Dieu de son père avait donné à celui-ci de multiples preuves de son pouvoir, il constatait que ceux qui avaient auparavant fait campagne contre le tyran avaient assemblé leurs forces avec une multitude de dieux, mais avaient abouti à une fin lamentable. L'un se retirait honteusement sans combattre, l'autre était mort tué dans son propre camp. En évaluant tout cela, il concluait que c'était folie de se confier sottement à ceux qui ne sont en rien des dieux et de persister dans l'erreur devant une telle évidence, et il pensait qu'il fallait vénérer uniquement le dieu de son père. C'est Eusèbe de Césarée qui parle. Encore une fois, je vous rappelle, ce n'est pas un père de l'Église, mais c'est un évêque, incontestablement, et un des premiers évêques. On est au tout début du IVe siècle. Alors on se dit, mais d'où Eusèbe de Césarée tire-t-il tout ce qu'il nous dit, d'où tire-t-il la certitude? Eh bien, il la tire d'une confession que lui a faite sur le tard l'empereur lui-même, c'est ce qu'il dit lui-même. Alors Eusèbe affirme que Constantin a donc commencé à invoquer ce dieu dans ses prières, le suppliant et l'implorant de lui dire qui il était et de tendre la main vers lui pour l'assister dans ses projets. Et là, attention, voilà la légende, en marche. Alors qu'il priait ainsi et le suppliait instamment, un signe divin très remarquable apparut à l'empereur. Si quelqu'un d'autre le rapportait, il ne serait pas facile de l'accepter, mais parce que l'empereur vainqueur lui-même nous l'a raconté, à nous qui rédigeons cet écrit, nous dit Eusèbe, de longues années après, alors que nous avions le privilège de sa société, de sa compagnie, et que les paroles de celui qu'il rapportait ont été confirmées par des serments, qui pourrait hésiter à se fier à ce récit, surtout lorsque le temps a apporté la preuve que ces paroles étaient véridiques. Bon, vers le milieu du jour, alors que le soleil commençait à décliner, Constantin dit qu'il vit de ses yeux, dans le ciel lui-même, au-dessus du soleil, un trophée en forme de croix fait de lumière et un texte qui lui était attaché et qui disait « Par celui-ci, sois vainqueur », c'est ce qu'on a si souvent traduit par « Et par ce signe, tu vaincras ». À ce spectacle, la crainte le saisit, lui et tout le corps d'armée qui faisait route avec lui, alors qu'il se rendait en quelque lieu et qui fut témoin du miracle. Il disait qu'il se demandait en lui-même ce qu'était cette apparition, alors qu'il y réfléchissait et s'interrogeait longuement, la nuit survint. Pendant son sommeil, alors là Eusèbe lâche la cavalerie, si je puis dire, pendant son sommeil, le Christ de Dieu lui apparut avec le signe qu'il avait vu dans le ciel et lui ordonna de faire une copie du signe apparu dans le ciel et de se servir de celui-ci comme d'une protection contre les attaques des ennemis. Levé avec le jour, le César, Constantin, raconta à ses amis ce secret. Ensuite, il convoqua des orfèvres et des joailliers et assis parmi eux, il décrit l'image du signe et leur ordonna de le reproduire avec de l'or et des pierres précieuses. Celui-ci, l'empereur, me fit la faveur de le contempler un jour de mes propres yeux, Dieu nous ayant accordé cela aussi. » «
marche romaine sur Europe 1, bande originale du film Ben-Hur, Franck.
Alors comme vous le dites, Pierre Maraval, ce texte fondateur d'un mythe tellement célèbre, il faut le décrypter, il faudrait ligne par ligne voir quelles sont les intentions de Zeb de Césarée, qui n'écrit pas cela du tout au hasard, évidemment. Ce que nous allons nous contenter de faire, c'est de raconter à nos auditeurs ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'après ce signe apparu dans le ciel, on ne sait pas si c'est la veille, l'avant-veille, Zeb ne le dit pas, ça du reste. Après avoir été en quelque sorte désigné pour la victoire, et cette victoire, Constantin l'a remportée. Il est vainqueur au pont Milvius.
Bien sûr, mais ça c'est la chose la plus certaine, si je puis dire, parce que ce qu'a raconté Zeb, quand même, il écrit ça 25 ans après, à peu près. Hein. Et de toute façon, donc la vision, il ne la situe pas à la veille de la bataille, comme le feront les historiens après lui. Bon, quoi qu'il en soit, donc, il y a eu effectivement victoire au pont Milvius. Il faut quand même souligner que cette victoire est une victoire remarquable, car dans les 5 années qui précédaient, 2 empereurs se sont cassés les dents sur les murs de Rome. Hein, ont dû l'un s'enfuir, enfin tous les deux se sont enfuis lamentablement. Or, Constantin arrivait de Gaulle avec une armée qui était fatiguée pour un très long trajet.
Qui était très composite, hein, enfin, etc.
Donc on est au mois de novembre, donc l'hiver approche. Maxence est bien
son
protégé
ennemi,
par
donc,
les
hein.
remparts, il a fait des réserves de nourriture. Donc c'était pas du tout évident que la victoire vienne. C'est bien pour ça qu'elle est apparue comme quelque chose d'extraordinaire.
De miraculeux.
Miraculeux. Et ça vaut pas seulement des chrétiens, parce que très peu après, il y a des orateurs païens qui attribuent cette victoire aux dieux en général.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Constantin et les chrétiens, c'est le titre de notre émission aujourd'hui sur Europe 1, en partenariat avec Le Figaro. Histoire que vous êtes justement en train de feuilleter, Franck.
Oui, c'est très riche hein, comme numéro. Je vois notamment la bibliographie commentée, parce que c'est bien d'avoir en fin de dossier des bibliographies, mais lorsqu'elles ne sont pas commentées, très souvent, elles ne servent pas à grand-chose, pour tout vous dire. Et là, au contraire, on voit, notamment, on réalise en feuilletant cette impressionnante bibliographie, à quel point le personnage de Constantin est aimé des éditeurs d'histoire, hein, puisqu'il y a un grand nombre de biographies qui lui ont été consacrées. Alors évidemment, de très belles photos de toutes sortes de trésors. Il y a des bios également, hein, une chronologie avec des cartes. Et puis, 2 grands articles de fond sur Constantin, sur ses chrétiens et sur les persécutions qu'ils ont subies. Et puis, un certain nombre de questions qui vous sont posées, Pierre Maraval, et que je vais à mon tour vous poser dans un instant. Juste avant cela, peut-être un mot, Michel de Gégère, sur le caractère exceptionnel, on l'a dit il y a, pour commencer cette émission, mais le caractère exceptionnel de cet événement de 313, c'est-à-dire l'autorisation du culte chrétien dans le sein de l'Empire romain.
Oui, parce qu'il faut comprendre.
On appelle ça l'édit de Milan. Hein,
voilà, on appelle ça l'édit de Milan de façon impropre, puisqu'il n'y a pas véritablement d'édit.
Il n'y a pas d'édit.
Il y a une lettre qui a été placardée dans tout l'Empire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le christianisme est alors quand même une religion extrêmement minoritaire. On n'a pas des statistiques extrêmement fiables. On sait qu'il y a des communautés importantes en Orient, en Syrie, en Palestine, en Asie mineure, en Égypte, en Afrique, c'est-à-dire l'actuelle Tunisie, mais notamment dans tout l'Occident. C'est une religion qui représente peut-être 10% de la population, voilà, de cet ordre de grandeur, bien que les chiffres soient tout à fait relatifs, puisqu'on n'a pas de statistiques. Et donc, la conversion de Constantin est tout sauf un calcul politique à court terme. Hein, ce n'est pas l'empereur qui se convertirait à la religion majoritaire de ses sujets pour être populaire, etc. Au contraire, il se convertit à une religion qui est extrêmement majoritaire, dans un contexte où toutes les élites, notamment le Sénat romain, sont tout à fait acquises au paganisme. Donc pour lui, il accumule les difficultés. Et on peut penser qu'il y a eu cette conversion sincère, comme l'a dit Pierre Maraval, il a vraiment vu une espèce de jugement de Dieu dans la bataille du pont Milvius. Mais ensuite, dans cette situation paradoxale d'un empereur qui est acquis à une religion tout à fait minoritaire, ça l'a conduit à une politique extrêmement intelligente, puisqu'il ne va pas persécuter le paganisme, il ne va pas persécuter les païens, il ne va pas faire la politique inverse, si vous voulez, le miroir de ce qu'avait été la politique de Dioclétien, mais au contraire proclamer la liberté et penser que c'est par la douceur et la persuasion eh bien, que les païens, petit à petit, reviendraient de leur erreur. Et pendant tout le règne de Constantin, on est frappé, et je crois que c'est vrai aussi de ses successeurs, par le fait qu'un certain nombre de païens occupe des fonctions extrêmement éminentes.
Oui,
son ministre, son préfet du prétoire, son proche.
C'est de pas l'empereur. Une conversion de l'État pour autant. Hein. C'est une ouverture simplement. Ça, il faut bien le dire. Alors, puisque vous êtes
l'empire n'est pas chrétien.
Voilà, c'est ça. Hein.
L'empereur seulement.
Voilà, l'empereur et un certain nombre de personnes, bien entendu. Alors, justement, c'est une des questions que vous posez dans ce numéro du Figaro Histoire, Pierre Maraval. Et puisque vous êtes là avec nous, je vais vous la reposer. Que représente, je la pose telle qu'elle est formulée, que représentaient les chrétiens en 313?
Effectivement, une minorité. Donc une minorité, en tout cas en Occident, c'est tout à fait certain. À Rome, c'est vraiment rien. Puis surtout, c'est pas les gens importants. Hein. Donc bien entendu, il y a des chrétiens même parmi les classes supérieures, si je puis dire. Mais comme de toute façon, elles sont minoritaires dans la société de l'époque, elles sont peu nombreuses. Et donc le christianisme est... En Orient, assez bien implanté, dans certaines régions même fortement implanté, mais en Occident en particulier, c'est assez faible. Bon, il y a déjà, je sais pas, on pourrait citer en Gaule le nombre d'évêques, c'est un petit signe, mais au début du 4e siècle, il y a encore 4 ou 5 évêques connus. À la fin du 4e siècle, il y en aura beaucoup plus, donc c'est un indice de cette croissance.
Alors, vous nous avez dit, l'Empire n'est pas chrétien. Est-ce que cette lettre publiée en 313, ce qu'on appelle l'Édit de Milan, est-ce qu'elle a modifié le fonctionnement de l'Empire ?
Pas véritablement. De toute façon, qu'est-ce qu'elle dit exactement ? Au fond, elle donne la liberté à toute religion. Elle considère donc que ça a été malencontreux, tout à fait malencontreux de persécuter. Elle dit exactement que les prédécesseurs ont pris des dispositions malencontreuses. Elle donne la liberté à la religion. Et ce qui est peut-être le plus important, pour la première fois, le christianisme est reconnu comme religion. Parce que jusque-là, le christianisme était tenu pour une superstition. Hein. Superstition, folie, entêtement et tout ce qu'on voudra. Donc là, elle est reconnue comme religion, elle a sa place dans l'Empire. Ça ne lui donne pas une place privilégiée. Peu à peu, elle aura une place privilégiée parce que Constantin la favorisera. Mais l'édit de Milan, ce qu'on appelle l'édit de Milan, lui donne simplement sa place. En plus, comme à toute autre religion.
Et est-ce que ces chrétiens, par leur présence et par la liberté qui leur est désormais attribuée, vont fragiliser les bases de l'Empire ? Est-ce qu'ils sont pour quelque chose dans ce qu'on va appeler la chute de l'Empire romain ? C'est donc un siècle, presque deux siècles plus tard, l'Empire romain d'Occident.
Oui, l'Empire romain d'Occident, il faut toujours le souligner.
Bien sûr, oui.
Quand même, l'Empire romain a duré...
L'autre longtemps, très longtemps, bien sûr, jusqu'en 1453.
Oui, ça, c'est une thèse qui a été défendue à l'époque. Le christianisme aurait affaibli l'Empire romain, mais c'est une thèse qui est quand même très combattue aujourd'hui. L'Empire romain d'Occident s'est écroulé pour bien des raisons économiques, à cause des barbares. Mais quand on parle des barbares, il ne faut pas oublier que les barbares étaient chrétiens. La plupart des barbares étaient chrétiens. Ils n'étaient peut-être pas tout à fait chrétiens orthodoxes, si je puis dire, puisqu'en général, ils avaient adopté une confession de foi proche de l'arianisme. Mais en fait, c'était des chrétiens. Donc, c'est pas leur christianisme, j'allais dire, qui a détruit l'Empire.
Ce qu'il faut dire aussi, c'est que Constantin a mis du temps avant d'être baptisé, puisque lui-même est baptisé seulement sur le tard, la fin.
Alors ça, c'est une attitude qu'il partage avec un certain nombre de gens de l'époque. On attend le dernier moment parce que on est
presque
assuré,
l'extrême onction, disons.
On est assuré, là de son salut. Il faut pas oublier qu'à l'époque, il existe dans l'Église une discipline pénitentielle qui ne ressemble pas du tout à ce qui existe aujourd'hui. La confession n'existe pas. Mais si vous avez fait un certain nombre de crimes officiellement, eh bien vous êtes exclu pendant des années de la communauté. Enfin, il y a des quantités d'interdits. Donc c'est très pesant. Et on indique souvent, par exemple, aux gouverneurs qui ont à faire des condamnations à mort, etc., de s'abstenir de l'Eucharistie, des choses comme ça. Alors, ces gens-là attendent le plus longtemps possible pour avoir l'assurance du salut.
Quelles ont été les conséquences sur Rome, sur l'Occident, sur le monde, les conséquences de ce qu'on appelle l'Édit de Milan, donc de cette lettre de 313 après Jésus-Christ, évidemment. Et c'est ce que nous voyons dans un instant.
Franck Ferrand sur Europe 1. Au cœur de l'histoire.
Constantin et les chrétiens, c'est le thème de notre émission du jour, Franck.
Alors, on est en train de passer gentiment dans cette affaire du paganisme au christianisme. Puisque, évidemment, Michel de Gégère, à partir du moment où le souverain lui-même, celui qui était le garant des rites païens, se convertit au christianisme, c'est très difficile de maintenir ces religions-là.
Oui, parce que d'abord, l'édit de Milan accorde à l'Église sa visibilité. C'est-à-dire que l'Église peut prêcher en public et puis surtout, elle peut se réunir, les évêques peuvent se réunir en concile. Il va y avoir un certain nombre de conciles qui vont être facilités par Constantin qui va mettre le cursus publicus, la poste publique à disposition des évêques pour leur permettre de se réunir.
C'est la formation du dogme.
Qui permettra de faire des conciles œcuméniques qui permettront de définir le dogme. Donc, les relations entre les différentes communautés pour former véritablement une Église vont être facilitées. Il y aura, bien entendu, le conformisme qui joue dans toute société. C'est-à-dire à partir du moment où le chef d'État, les élites adhèrent au christianisme, évidemment, ça facilite d'une certaine mesure les conversions. Je crois qu'on peut dire aussi que le paganisme était en crise. C'est-à-dire que le paganisme, comme on l'a dit, c'était une série de rites, mais ça ne correspondait pas à une philosophie précise. C'est-à-dire que sur le plan des convictions, chacun avait un petit peu les convictions qu'il voulait. Or, le christianisme présente cette merveille, ce chef-d'œuvre d'Paul Venn, d'être une religion qui associe à la fois le rite et la philosophie. C'est-à-dire c'est à la fois un culte et en même temps une philosophie de la vie, en même temps une morale. Il donne un sens à la vie. Donc, c'est une chose qu'aucune religion antique n'avait réalisée. À partir du moment où il devient public et même recommandé, eh bien, sa puissance de séduction est évidemment décuplée.
Il va falloir que le droit romain s'adapte à la morale chrétienne. Ça va supposer un certain nombre d'ajustements, ça bien entendu.
Alors ça sera progressif, mais il y a quand même dès le règne de Constantin un certain nombre de lois d'adoucissement des mœurs. Il y a l'interdiction de la crucifixion, le marquage au visage. On institue que les condamnés dans les prisons doivent voir le jour une fois par jour. Il y a le repos dominical.
On abandonne les sacrifices aussi.
Alors ça c'est une attitude qui est le fruit aussi de l'édit de Milan, parce qu'on a reconnu la religion. Hein, mais Constantin va vouloir, au fond, quelque part, purifier la religion païenne de tout ce qui lui paraît superstition. Hein. Et donc, c'est à ce titre qu'il va interdire un certain nombre de choses. Il faut d'abord souligner qu'il reste quand même le grand pontife de la religion païenne. Hein. Il a gardé ce titre. Bon, donc ça lui donne le droit de nommer des prêtres païens, etc. Mais alors, ensuite, donc, il prend une série de mesures pour interdire tout ce qui lui paraît superstition. Par exemple, donc, d'abord, la ruspicine, la consultation des entrailles, la magie, des choses comme ça. Puis alors, finalement, les sacrifices sanglants, qui est pourtant un élément essentiel du culte païen.
Il ne faudrait pas pour autant faire passer Constantin pour quelqu'un de très doux.
Pas du tout.
Hein, il est dur avec sa famille, par exemple, il faut dire en deux mots quand même. Hein, il a du sang sur les mains, si je puis dire, cet homme-là.
Il a du sang sur les mains, bon, bien entendu. Il a fait mettre à mort son beau-père, ensuite son beau-frère, ensuite de ses fils.
C'était aussi des gens qui... ses propres fils, hein, il faut dire, et même sa femme aussi.
Dans le cadre, c'est des histoires un petit peu compliquées, un petit peu shakespeariennes, puis tout ça dans le cadre de complot. Et dans un contexte où on sort d'un siècle de guerre civile, d'usurpation, d'anarchie militaire, et donc pour restaurer l'unité de l'État, pour restaurer la souveraineté de l'État, c'est sûr que Constantin a eu la main lourde, mais il est probable que c'était nécessaire.
C'est politique. Son beau-père ou son beau-frère, c'est politique.
Il y a un personnage dont on n'a pas eu le temps de parler véritablement, mais c'est Hélène, c'est sa mère, hein, personnage
sa mère Hélène,
forte personnalité, qui suivra son fils dans la religion chrétienne, du reste.
Oui, ce n'est pas elle qui l'a converti, comme on a parfois dit, c'est lui qui l'a converti. Puis alors ensuite, elle jouera un rôle d'Auguste. Évidemment, c'est un passage quand même considérable de sa part d'être passée de servante d'auberge à impératrice. Et quand elle fera entre autres un grand voyage en Orient, entre autres, elle passera à Jérusalem. On lui attribue la découverte de la croix. Bon, c'est un peu légendaire, mais enfin, donc, ce rôle d'Hélène sera important. Elle jouera un rôle de bienfaitrice, vous voyez.
Notamment dans la fondation de la basilique du Saint-Sépulcre.
Oui, bien sûr.
Elle fait les donations qui permettront l'érection de la basilique du Saint-Sépulcre.
Elle y va envoyée par Constantin. Son voyage d'inspection, Constantin a pris les décisions, mais effectivement, elle transmet tout ce...
Et peut-être un voyage d'expiation, justement, à la suite des affaires de famille.
On peut en discuter.
Il est possible qu'elle ait fait une sorte de pèlerinage expiatoire.
Non, j'en suis pas trop sûr, mais enfin bon, c'est une possibilité, bien sûr.
Alors, on n'a pas parlé de Constantinople non plus. Hein. C'est tout ça pour expliquer qu'évidemment, le sujet et Constantin ne se résument pas à cette affaire de l'édit de Milan en 313. C'est un règne très important, fondamental. Un mot peut-être de cette Constantinople qui va devenir la Byzance.
Oui, mais c'est une des grandes réalisations de Constantin. Donc, Constantin l'a choisi comme capitale, d'abord pour mille raisons, mais d'abord situation stratégique, économique, etc. puis alors il va favoriser sa transformation, et donc c'est le point de départ de...
Mais de tout ce qu'on connaît, de cette histoire byzantine extraordinaire. Voilà. Constantin le Grand de Pierre Maraval, c'est aux éditions Talendier. Et puis, bien entendu, ce numéro 8 du Figaro Histoire, 313, comment le monde est devenu chrétien, de la grande persécution au triomphe de l'Empire chrétien, Constantin cet inconnu, la révolution de l'édit de Milan, avec en couverture une très belle mosaïque pré-byzantine, si je puis dire. Le numéro est en kiosque dès maintenant.